Il est 23h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous continuons à évoquer les difficultés de l'amour. Didier Pleu, avec vous, bien sûr, psychologue, auteur de nombreux livres, comme d'ailleurs On aime comme on a été aimé, dans la collection Psycholove. Mais le dernier, c'est L'autorité éducative, une urgence, aux éditions Odile Jacob. L'amour, oui, on l'apprend tout petit, de toute façon, dès sa naissance, et on se rend compte que cet amour inconditionnel qu'on aimerait tous recevoir, il est impossible, évidemment. La devinette, ça vous dit quelque chose? Pourquoi les femmes ont souvent le pare-choc de la voiture un peu embouti?
Moi, j'ai une réponse un peu basique. Est-ce que c'est parce qu'elle rêve vaste ou elle rêve au volant? Je ne sais pas.
Non. C'est parce que leur amant ne cesse de leur faire croire qu'un pénis de 10 cm, ça équivaut à un pénis de 20 cm. Alors, forcément, ça... après, on a une difficulté à évaluer les distances. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu de votre faute.
J'étais loin.
Vous étiez un peu loin, mais bon. Alors, on va continuer, bien sûr, avec vous au 0826-300-300. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie d'un éclairage sur l'amour, justement. C'est Romain qui est avec nous. Bonjour, Romain.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Didier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Romain.
Alors, merci à vous de me recevoir. Excusez-moi, j'ai pas écouté la première heure d'émission, donc je ne sais pas ce qui a été dit.
C'est pas grave. On vous écoute, en tout cas.
Oui, moi je vous parlais de mon expérience. Avec mon épouse, ça fait 15 ans qu'on est mariés, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Et là, depuis le mois de septembre dernier, on subit une crise de couple. Elle m'a annoncé qu'elle n'avait plus de sentiments pour moi. Et donc, depuis, les choses sont compliquées. On est toujours ensemble, on a des enfants. Et disons qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et votre sujet m'intéresse parce que vous parlez d'individualité. J'ai respecté son choix, son ressenti, son individualité. Et c'est vrai que j'avais certains besoins qui dépendaient en fait d'elle, qui ont peut-être parasité la relation. Et maintenant, je ne demande plus. Donc, je respecte ses choix, je respecte son ressenti, je respecte aussi son espace parce que elle me dit souvent que maintenant, elle a besoin de son espace. Donc j'accepte. Et moi maintenant, disons que je suis moins dépendant et je vois ça avec une certaine confiance, sérénité et je suis dans cette phase de réparation. Mais je m'aperçois que pour réparer, il faut être deux. Et là, je sens qu'il y a un décalage entre nous deux. Donc on arrive encore à communiquer, on a encore des rapports intimes. Mais je sens encore cette distance. Et je m'aperçois qu'il y avait un invité chez vous qui parlait de... Vous savez, dans une vie de couple, on vit plusieurs couples. Je ne sais plus le nom de l'intervenant. Je crois que c'est un anthropologue qui vient souvent chez vous.
Et, Philippe Renaud,
oui,
sans doute,
qui est là demain. Oui, tout à fait. Et je m'aperçois qu'on est en plein là-dedans. En fait, notre couple est en train de muter. Et là, ben, on est en plein dans le processus. Mais par contre, je ne sais pas comment ce couple-là va muter.
Alors, il me semble, a priori, qu'elle n'a pas du tout envie pour l'instant d'une séparation. Donc, elle doit être dans une relation affective plutôt amicale, bien que vous ayez encore des relations intimes. Donc, tout ça n'est pas si mauvais. Moi, je pense que... Vous l'avez dit, vous avez été très dépendant d'elle, peut-être un peu envahissant. Comment dirais-je ? On dit toujours que fuis-moi, je te suis, quoi. Et peut-être que vous étiez trop à sa merci, donc il n'y avait pas de place pour un peu de manque et un peu de désir. Et c'est ça qui souvent fait croire aussi aux femmes qu'elles ne vous aiment plus. Mais en même temps, je pense qu'il y a certainement encore beaucoup d'affection. Il faut juste qu'elle redécouvre la peur de vous perdre pour à nouveau vous désirer. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de dire. Didier Pleu, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte. C'est cette histoire de tu me fuis, tu me suis, je te fuis, etc. Oui, non, surtout que, d'après ce que disait Romain, il parlait qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui, mais dans la réalité, ça a l'air d'être assez faux, puisqu'il y a encore une intimité, il y a encore une vie commune. Donc, moi, je suis pas pessimiste, mais surtout si Romain se rend compte qu'il a peut-être été dans une relation, effectivement, il prenait trop de choses chez elle, respectait pas assez son individualité, son autonomie. S'il est très lucide de ça, je crois qu'il faut qu'il communique un peu plus pour voir qu'est-ce qu'on peut vivre comme deuxième couple, puisque Romain faisait allusion à ça.
Oui, je crois que vous avez compris assez bien les choses. Il faut maintenant juste que vous vous donniez les moyens de la surprendre un peu, de lui faire un tout petit peu peur, hein. Je dis pas du tout que vous devez avoir une relation avec quelqu'un d'autre, mais de qu'elle se rende compte que de quel homme extraordinaire vous êtes, et que au fond certes c'est plus l'amour passionnel du début, mais il y a quand même encore quelque chose de très fort entre vous. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, j'y travaille. Vous parliez tout à l'heure d'amour inconditionnel. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est revenir sur moi. Je sais que voilà, on a chacun des ressources. Et ne moins attendre des autres et plus compter sur soi, finalement, on gagne en liberté, et je trouve que ça diminue la frustration. Donc ça m'aide beaucoup. Mais maintenant, je m'aperçois que dans le lien, il y a un peu, je vous parlais tout à l'heure de décalage, je sens parfois que c'est à sens unique, en fait. Je sens qu'elle est moins sensible à l'échange, je dis pas forcément des relations sexuelles, mais parfois, vous savez, des jeux, une sortie, je m'aperçois que la motivation, elle a vachement diminué. Et c'est mais toujours un effort.
Oui, mais Romain, elle a pris une certaine distance quand elle dit qu'elle n'a plus de sentiments pour vous. C'est justement parce qu'elle ne se sent plus autant reliée à vous. Et je crois que le mot relié a tout son sens. Mais si vous aussi vous êtes un petit peu plus dans votre relation à vous-même, vous allez forcément être un peu plus détaché. Et à ce moment-là, vous savez, c'est une corde entre deux. Si elle sent que vous lâchez la corde, elle va avoir envie de la rattraper. Ouais. Tandis que là, vous continuez à la tenir, la corde. Donc elle l'a lâchée et elle n'a pas envie de la reprendre.
Oui, il faut que moi, je la relâche aussi de mon côté.
Voilà.
Il faut trouver cet équilibre, finalement.
Oui, et puisque vous découvrez votre monde intérieur, moi j'aime bien cette idée de monde intérieur, eh bien, obligatoirement, vous allez devenir plus indépendant, et vous allez peut-être découvrir des choses à faire tout seul, et ça va la surprendre, et ça peut l'inquiéter un petit peu et lui redonner l'envie de rattraper la corde.
D'accord.
Vous voyez,
Et puis Brigitte, ne pas oublier, c'est Romain qu'il faut aussi qu'il lui demande, mais qu'est-ce que tu n'aimes plus chez moi? Qu'est-ce qui est si frustrant chez moi qui fait que tu me dis que tu n'as plus de sentiments? Je crois qu'on a toujours du mal à aborder ce genre de choses.
Vous avez raison,
toujours, mais c'est toujours cette espèce de bon sens, mais okay, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Et puis on va voir dans la liste.
Alors,
ce qui est plus important.
Oui. Didier, j'ai posé la question plusieurs fois. En fait, elle ne sait pas. Et en fait, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de sa propre histoire, en fait. Vous voyez, c'est ambigu, hein. C'est ambigu, mais c'est pas très clair.
Oui, mais je suis pas totalement d'accord, Romain.
Oui,
parce qu'il y a forcément toujours de l'ambivalence dans la relation à l'autre, quoi qu'on en dise. Et donc, obligatoirement, il y a des choses chez vous qu'elle aime moins. Alors, je ne dis pas qu'elle déteste, mais il y a des choses qu'elle aime moins. Et que peut-être, aujourd'hui, puisqu'elle a dit qu'elle avait moins de sentiments pour vous, ces choses-là ont pris plus d'importance. Et donc, c'est ces choses-là qu'il faut qu'elle ose dire. Peut-être que vous avez pris un peu de poids. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment, vous ne prenez pas suffisamment le temps de vous habiller quand vous allez dîner ensemble le soir. J'en sais rien. Je ne sais pas.
Mais je suis prêt à écouter. Hein. Je suis prêt à accueillir ce qu'elle me dit, mais elle est incapable de me le dire. C'est ça qui.
Mais Romain, soyez beaucoup plus, comme on dit, conflictuel, beaucoup plus affirmé. C'est-à-dire, c'est toujours ce que j'entends dans des couples. Souvent, c'est la femme ou l'homme dire je suis pas bien. Tout ça va à l'eau parce que j'ai des problèmes personnels, etc. Non, il n'ose pas aborder ce que dit Brigitte, c'est-à-dire peut-être que c'est le physique qui plaît moins, peut-être qu'elle en a marre d'écouter vos disques préférés, peut-être qu'elle en a ras-le-bol de quand elle vous voit boire de la bière en faisant des glouglous. Enfin, j'en sais rien. Des fois, c'est des trucs complètement stupides comme ça et qui fait que on ne se parle plus, quoi. Parce que comme si on disait l'amour, voilà, c'est l'intimité, c'est quand ça marche bien. Mais non, redemander les détails. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Je sais pas. Je veux savoir, parce qu'au moins, si demain on se quitte, j'aurai au moins ma petite liste à travailler pour la prochaine
Je lui ai dit que j'ai vraiment besoin de savoir, et je suis vraiment prêt à écouter, je suis vraiment ouvert.
Préparer le questionnaire, physiquement. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez moi? Etc. Dans mon caractère, qu'est-ce que tu aimes le moins? Dans mes passe-temps, qu'est-ce que tu aimes le moins? Préparer un questionnaire et elle pourra pas se défiler.
D'accord. Avec mes amis, est-ce que tu le trouves un peu con quand je parle, etc. etc. Allez-y.
Trouver 50 questions à lui poser et puis elle va vous répondre. Excellent. et vous aurez vos réponses.
Très bien.
Allez, au boulot.
Je prépare ça et je vous dirai.
Vous me direz. Merci Romain. Allez, on fait une petite pause. 0826 300 300. Vous avez besoin de conseils pratiques. Didier Pleu est avec nous. Profitez-en et rejoignez-nous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio Prades.
105.7.
Sud Radio.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi, à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge, on a changé à la longue.
On a
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul. Je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
C'est toujours en compagnie de Didier Pleu qu'on vous apprend à aimer. C'est un petit peu prétentieux ça de notre part, hein, Didier Pleu. C'est pas, on n'a pas cette prétention là. Alors, votre dernier livre, L'autorité éducative, une urgence, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Bonjour Laurence.
Bonjour Brigitte, bonjour Didier Pleu, qui est ma référence absolue en matière d'éducation des enfants.
Merci.
Donc, que je remercie pour cet ouvrage. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà. Alors, ce dont je voulais parler, justement, c'est précisément que dans un couple, c'est un adulte qui avant était un enfant. Et selon l'éducation qu'il a reçue, ça rend particulièrement compliqué l'échange. Et quelquefois, s'il s'est construit dans un contexte, ce qui est mon cas, d'une éducation très culpabilisatrice, dans laquelle on n'écoutait pas ses besoins, on n'écoutait pas ses envies, où la seule chose était la valeur travail, l'exigence, la volonté de faire plaisir à l'autre, aux parents, pour avoir un regard, pour avoir une attention, on arrive à l'âge adulte construit ainsi. Et on va fonctionner comme ça, parce qu'il faut toute une vie pour cheminer et sortir de cela. Et pour peu que le partenaire il trouve son compte, parce qu'effectivement, avoir un conjoint très présent, qui assure tout, qui, voilà, c'est très confortable, et surtout qui culpabilise dès qu'il sort du foyer, ça fait que l'on va se construire de façon asymétrique, et qu'il va falloir mener pour sortir de ça un double combat contre soi-même et contre le système que l'on a mis en place. Je ne dis pas contre le partenaire, parce que c'est malgré lui que ça s'est construit comme ça. Vous avez été une pièce de puzzle un peu tordue, et la chose s'est adaptée, s'est construite comme ça, et lui a épousé la forme de vos failles. Et voilà. Et ça, c'est moi, ça fait 30 ans que je suis mariée avec le même homme, et c'est extrêmement difficile de sortir de ça, de s'autoriser à faire exister son individualité, qui au bout de 30 ans, forcément, changer, réfléchir, évoluer. Voilà.
Bien sûr, mais vous savez, Laurence, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut imposer ses limites dès le début. Hein. C'est plus compliqué ensuite de faire marche arrière. Mais en attendant quand même 30 ans de vie commune, vous avez grandi, vous avez évolué, lui aussi. Et ça passe encore une fois peut-être par la communication, non, Didier Pleu?
Oui, en tout cas, Laurence, elle a bien décrit comment tout ça se construit quand elle dit qu'elle a été... Dans son enfance, plutôt en compagnie de gens qui étaient rigoureux, qui lui disaient qu'il fallait être altruiste, pas penser à soi, etc. Elle a donc fait ce qu'on appelle des petites synthèses émotionnelles quand elle était jeune. Donc elle en a conclu, quand on aime les gens, on doit faire abstraction de son ego et tout faire pour être bienveillant, empathique, etc. Alors comme dit Laurence, ça nous poursuit tout le temps, ça. Mais on peut déconstruire ces scénarios-là. C'est-à-dire, on peut se dire, attends, j'ai pas 5 ans, j'ai pas 12 ans, j'ai pas 15 ans, je peux effectivement déconstruire ce que j'ai appris, ce qu'on m'a dit qui était bien, c'est-à-dire aime les autres avant toi, et se dire, je vais peut-être me donner quelques défis je garde la philosophie humaniste d'aimer les autres, c'est une bonne philosophie, mais je vais peut-être aussi me donner des objectifs un peu plus égocentriques. Vous voyez, là, j'ai à l'inverse de ce que j'arrête pas de dire au niveau de l'éducation, c'est que de temps en temps, quand on penche trop dans l'altruisme et l'empathie, c'est un peu ce qu'on avait fait, nous, les 68 heures. Il faut aussi penser à la jouissance immédiate et au plaisir. On a le droit. Et dans le cas de Laurence, c'est peut-être ça qu'elle s'est interdite tout le temps en répondant à cette fameuse synthèse. Quand on aime, on se donne totalement à l'autre et on pense pas à soi. Je crois que, mais comme vous le dites, Brigitte, 30 ans, ça veut dire que quelque part, il y a quand même de l'espace pour dire, peut-être que c'est le moment que je sois un petit peu plus égocentrique dans le couple. Et je pense qu'au bout de 30 ans, l'autre va dire, c'est une nouvelle femme, j'accepte.
Oui, c'est possible, oui, mais il n'en reste pas moins, je le maintiens, que c'est un dur combat. Et l'anxiété que ça génère et la culpabilité que ça génère, il faut énormément de force pour l'étouffer. Voilà.
Faut ce qu'on appelle, ça des disputes. C'est-à-dire, si inconsciemment, vous n'arrêtez pas de vous dire, je suis anxieuse parce que je vais pas faire plaisir à l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de ce que je fais, est-ce que je suis vraiment dans ses souliers, ça peut être déconstruit consciemment en disant, je me dis ces choses-là chaque fois que je suis anxieuse, mais est-ce que je peux disputer ces, ces automatismes de pension en disant « Mais attends, j'ai plus 10 ans, c'est pas parce que je vais dire « flûte, zut, parachute » à mon mari qu'il va partir chez la voisine. » Alors que quand j'avais 8 ans, bah, si je me rebellais auprès de mon père, je risquais gros et de perdre l'amour. On peut conscientiser tout ça et disputer. Disputer, c'est pas s'engueuler, c'est remettre en cause tout ce qu'on a conclu de toute sa vie et de toutes ses émotions. Parce que c'est ça qui aide.
Mais je crois, Laurence, que je vais revenir sur un sujet moi qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est la culpabilité vis-à-vis de qui ? Est-ce que c'est vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de vous que cette culpabilité, elle vous ronge ?
Non, c'est là que je me sens... Ah ben c'est très difficile, c'est une forme d'anxiété et alors qui a été beaucoup plus prégnante par rapport aux enfants, évidemment. Parce que tu sors, tu fais quelque chose, tu laisses tes enfants.
Et oui, mais ça, c'est.
Bon, là, maintenant, le dernier à 19 ans, je pense qu'il peut rester tout seul. Hein.
On est bien d'accord. Donc, revenons sur. Parce que, vous voyez, oui. on peut se sentir coupable vis-à-vis de son compagnon, de se dire, oh, quand même, je ne peux pas lui faire ça. Parce que, justement, vous lui avez tellement donné tout que vous avez du mal à. Enfin, vous vous sentiriez coupable vis-à-vis de lui. Mais c'est peut-être aussi coupable vis-à-vis de vous. Et à ce moment-là, c'est votre enfance qui refait surface. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et c'est
Et c'est ça qui est important, parce que c'est pas la même manière de gérer sa culpabilité si c'est vis-à-vis de votre mari ou vis-à-vis de vous.
Non, c'est même pas clairement défini. C'est une espèce de trouille qui est liée au trauma, au cri qui me tombait dessus quand je faisais quelque chose, quoi, je suppose. Ben,
donc... Oui, mais avancez déjà sur. Voyez si c'est vis-à-vis de vous que vous ne vous autorisez pas ou si c'est vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais je suis d'accord avec vous et je crois que j'ai longtemps cru que c'était vis-à-vis de lui et que je suis en train de réaliser que c'est plutôt vis-à-vis de moi.
Je pense aussi, je pense aussi. Eh bien, on est d'accord.
Et il y a une bonne petite technique pour savoir si c'est la culpabilité envers l'autre ou sa propre culpabilité, c'est que Laurence, elle repère les déclencheurs d'anxiété. C'est-à-dire, quelles sont les situations où elle se sent angoissée, anxieuse ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle se dit ? Et là, elle va voir qu'elle conscientisera très rapidement. Mais qu'est-ce que je me raconte là, quand j'ose pas dire ça ? Qu'est-ce que je me raconte quand j'ai manqué ça avec l'autre, etc. C'est là qu'elle verra. Est-ce que c'est une culpabilité ? Je dois tout le temps être gentil avec les autres parce que je perds l'amour, papa, maman, etc. Ou est-ce que c'est une culpabilité qui est liée à cette espèce d'injonction qu'on a constamment quand on est anxieux ? Voilà comment je dois me conduire. Et vous allez voir que vous allez tout à fait distinguer les deux culpabilités avec cette petite méthode-là.
Eh ben merci Laurence, en tout cas, on avance, c'est formidable. Petite pause, un love conseil, justement, on va parler de la différence entre les sentiments et les ressentis, et puis vous continuez à nous rejoindre au 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio Alès.
95.
Sud Radio.
It was
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Didier Pleu, on va parler de la différence entre les sentiments et les ressentis. Une différence qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Et pourtant, c'est important de bien comprendre la différence. Alors, on va commencer par le ressenti. Le ressenti, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps, hein, évidemment, qui est lié à une situation, à un comportement. C'est quelque chose d'assez provisoire au départ, mais qui peut s'installer durablement, notamment l'anxiété, hein, qui est un ressenti. Alors, un ressenti, ça peut parfois se traduire par un ressentiment, hein, lorsque, par exemple, on est agacé par quelqu'un. Et là, on se rapproche peut-être de ce que les gens croient être des sentiments. Un sentiment, c'est lié à une personne ou à un objet, hein, parce que ça peut être sa voiture, ça peut être un animal. Et un sentiment, c'est pas forcément partagé avec la personne ou l'objet sur lequel on a porté son sentiment. Et un sentiment, c'est quelque chose qui généralement est installé, qui va durer plus ou moins longtemps, bien qu'un sentiment n'est pas forcément définitif. Et c'est toute la complexité de tout ça. Bref, je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'un ressenti, lorsqu'il se transforme en ressenti, justement, va avoir une influence négative sur un sentiment amoureux. Et l'un comme l'autre peuvent être positif ou négatif, et c'est vraiment nos ressentis souvent, et c'est pour ça que je voulais faire ce Love Conseil avec vous, Didier Pleu, c'est souvent nos ressentis qui vont nous faire critiquer notre partenaire, qui n'y est pas forcément pour quelque chose. La plupart du temps, on ressent une gêne, on ressent un peu de colère, et c'est pas forcément lui qui est responsable, et c'est ça qui est important, alors que le sentiment, évidemment, est beaucoup plus lié à ce qu'on met dans la relation à notre partenaire. Donc voilà, donc peut-être qu'avec un petit peu plus de compréhension de la différence entre le ressenti et le sentiment, vous saurez mieux communiquer, me semble-t-il, avec l'autre, et ça nuira moins à la qualité de la relation. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'ajouter, Didier Pleu.
Si, c'est hyper important de différencier le sentiment du ressenti, parce que comme vous l'avez dit, le ressenti, c'est une émotion brute, quoi, très très primaire. Quand Laurence nous parlait tout à l'heure qu'elle a sans doute des moments d'anxiété majeure quand elle est avec son conjoint, c'est du brut de brut, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a simplement besoin d'approbation, d'une bonne cotation. Ça, c'est des synthèses très infantiles, qui ne sont pas encore construites. Donc effectivement, le ressenti, il faut toujours le décortiquer en se disant, mais colère, dépression, anxiété, c'est lié à quoi ? Qu'est-ce que je me raconte là ? Parce que c'est du brut de brut. Et pour transformer tout ça dans un sentiment plus humanisé, plus construit, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux émotions brutes, parce que quelquefois, on confond tout. On est en colère à cause de sa propre colère, alors que c'est pas forcément le partenaire qui nous a rendu colériques, c'est nous-mêmes.
Isabelle est avec nous maintenant. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre, Isabelle.
Oui, merci à vous de prendre mon appel.
Donc le sujet vous intéresse aussi, deux individus qui forment un couple, pas toujours simple cette équation.
Je dirais jamais simple.
C'est vrai.
C'est pas du tout évident, parce qu'on apporte tout et son passé, et sa charge émotionnelle, et son éducation, et ses ressentiments, et très souvent c'est le conjoint qui en fait les frais. Enfin, pour ma part, moi j'ai vécu avec deux personnes, deux hommes qui avaient eu des gros problèmes avec leur mère, et en fait j'ai vraiment l'impression de payer pour elles, quoi. Tout ce qu'ils n'avaient pas pu régler à l'époque avec leur maman, c'est moi qui l'ai pris de plein fouet. Donc c'est vrai que c'est pas facile du tout, parce que en fait quand on fait pas un travail sur soi-même et qu'on n'essaie pas de soigner son individualité, justement, le problème c'est qu'on le fait subir à son partenaire ou à sa partenaire. Enfin, ça c'est mon ressenti et mon vécu, en tout cas.
En tout cas, vous l'expliquez bien. Comment vous réagissiez quand vous vous rendiez compte ? Parce que déjà, vous avez eu la chance de vous en rendre compte, hein, donc vous avez bien compris que c'était pas contre vous, mais que c'était sa projection, hein, son transfert même, pourrait-on dire, qui faisait que ça posait problème. Et comment vous réagissiez justement ?
Ben, au début, surtout pour le premier, dont j'étais passionnément amoureuse, quand j'ai rencontré sa mère, ça m'a frappée, mais comme une évidence. J'ai dit, c'est exactement la même personnalité, etc. Et après, il avait eu déjà d'autres vies avec d'autres femmes. Et bon, j'ai connu un peu leurs histoires. Et chaque fois, il prenait des femmes qui étaient justement un peu des femmes pas de pouvoir, mais des femmes qui avaient du caractère. Et en fait, il les laminait. Il l'a laminé et j'ai essayé de lui en parler, mais forcément il n'a pas voulu l'entendre. Comment voulez-vous qu'il accepte quelque chose comme ça? Pour lui, c'était invraisemblable. Et puis malheureusement, c'est pas pour dire, mais très souvent les hommes ont beaucoup de mal à gérer leurs sentiments, parler de leurs sentiments et reconnaître qu'ils ont un problème et aller se faire aider. C'est bien dommage.
Attention aux généralités, Isabelle, qui souvent prouvent qu'on n'a pas non plus, nous, compris notre part de responsabilité dans l'histoire.
Certes, je suis complètement d'accord avec vous. Mais bon, moi, j'ai essayé de travailler. J'ai travaillé pendant longtemps avec des spécialistes, justement, pour essayer de soigner mes blessures d'avant, pour pas les apporter dans mon couple.
Mais vous m'avez pas répondu. Vous m'avez pas répondu parce que quand on découvre quelque chose comme d'aussi important que ça, c'est-à-dire que bon, vous êtes en fait le mauvais objet, c'est-à-dire que vous êtes la représentation du mauvais objet maternel pour cet homme. Comment vous réagissez? C'est-à-dire, est-ce que vous continuez à subir ces critiques, ces attaques? Est-ce que vous vous défendez? Est-ce que vous faites comme si vous n'entendiez rien? Enfin, comment vous réagissiez? Parce que c'est ça qui va être intéressant, parce que c'est ça qui va parler de vous. Et vous êtes d'accord, Didier Pleu, nous, on peut vous aider, vous. On ne peut pas l'aider, lui. De toute façon, ce n'est pas lui qui appelle.
Allez-y,
Didier.
Oui, Brigitte, vous avez tout à fait raison. C'est une interaction, parce que si on commence à se dire, effectivement, je comprends ce que dit Isabelle, mais si on commence à se dire que l'autre, faut qu'il soit sur le divan, qu'il fasse un travail sur lui, parce que sinon sa pathologie va submerger tout le couple, bon, on peut s'asseoir et attendre que l'autre évolue. Non, et même si l'autre est pathologique, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour construire mon couple? Oui, il a des problèmes avec sa maman, il a coincé son Oedipe, mais qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'épouse, conjoint, etc., pour déséquilibrer ça, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on reste dans une position passive et d'interprétation. Donc, je crois que les deux doivent travailler, même si l'autre est complètement névrotique. Bon, t'es névrotique, on va faire avec.
Parce que d'abord, vous l'avez pas choisi par hasard, et en plus, ça s'est reproduit. Donc, il y a quand même quelque chose chez vous qui est intéressant à trouver.
Oui, tout à fait. Mais pour répondre à votre question, comment j'ai réagi? Au départ, j'étais vraiment très, très, très amoureuse. J'ai supporté, j'ai essayé de comprendre en mettant un peu d'eau dans mon vin, en disant, de toute façon, c'est pas de sa faute. Mais au bout d'un moment, j'ai essayé d'en discuter aussi, d'avoir vraiment des discussions un peu profondes, mais c'était pas possible. Et au bout d'un moment, j'étais moi en train de mourir à petit feu, donc je suis partie. J'ai pas pu faire autrement parce que j'arrivais plus à supporter ça. Et je trouvais que c'était éminemment injuste de subir quelque chose qui ne m'était pas destiné.
Mmh. Oui, mais quand vous dites que c'était pas de sa faute, là, on rentre dans ce fameux panneau qui est, avec tout ce qu'il a subi, son enfance, etc., il peut pas être... Donc, je deviens passif, je ne dis rien. Alors que dans le couple, c'est la conflictualité, comme dans l'éducation, qui va reconstruire tout, c'est-à-dire, écoute, je suis désolé, j'ai vu que ta mère était omnipotente ou je sais pas quoi et que tu joues les petits garçons ou les rebelles, mais moi je suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas ta mère. C'est ça la conflictualité.
Mais je l'ai dit, mais il faut que l'autre soit prêt à l'entendre et soit prêt
non,
à l'entendre.
Non, Isabelle, vous l'avez, d'abord vous nous avez dit qu'au début vous l'avez supporté, ensuite vous nous avez dit que c'était pas de sa faute. Non, il fallait dès que vous vous en rendez compte, parce que tant qu'on s'en rend pas compte, on peut pas réagir, mais dès que vous vous en rendez compte, à chaque fois, au moindre truc, vous dites, oh, je suis pas ta mère, il continue, vous partez. Et vous le remettez face à un mur. Et quand l'autre se retrouve face à un mur, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se servir de vous comme un dépotoir, parce qu'en fait, c'est ça. Tant qu'on peut se servir de l'autre pour régler ses problèmes, on n'a aucune raison d'aller voir un thérapeute ou de se faire soigner. Vous comprenez?
Vous avez raison. Oui, complètement.
Mais c'est difficile. Mais c'est très, très, très difficile d'avoir cette réaction de neutralité. Oui. Parce que ça a certainement touché des parts de vous. Et c'est ces parts de vous qui n'ont peut-être pas encore été totalement, été éclairées. Voyez?
Oui, c'est sûr.
sans,
et puis
sans doute
que... sur cette notion de conflictualité, Brigitte. La conflictualité, c'est pas agresser l'autre, c'est est-ce qu'on peut vivre une relation d'amour sans jamais déséquilibrer l'autre, sans jamais affirmer des choses qui peuvent être contraignantes, déplaisantes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, parce que quand on est amoureux, ben, on a envie que tout se passe dans un truc complètement aseptisé et sympathique. Non, la conflictualité, c'est dire les choses, c'est bousculer, et c'est ça qui construit effectivement une bonne relation.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que c'est pas facile, oui, Isabelle. Hein. Je crois. Mais encore une fois, accepter que l'autre nous agresse alors qu'on y est pour rien, c'est quelque part ne pas poser ses limites et de ne pas et c'est souvent en effet, comme le dit Didier Pleu, c'est pour éviter le conflit.
Oui, complètement, je suis d'accord avec vous. Mais bon, le conflit, moi, j'ai vécu toute ma vie. Donc, dans mon couple, voilà. Je pensais ne pas le reproduire. Hein, et je me suis retrouvée exactement dans la même situation. Donc, à un moment, j'ai juste accepté, comme vous avez dit, quand vraiment on peut plus rien faire, ben, on dit au revoir. Même si on aime énormément l'autre, on s'en va.
Oui,
hein, on s'en va pour survivre.
Oui. Oui, vous venez de le dire, hein. Toute votre vie, vous avez accepté le conflit, c'est-à-dire vos parents se disputaient tout le temps, vous étiez...
C'était une horreur.
Oui.
C'était une horreur.
Mais c'est là qu'il y a une grande confusion entre les colères, les disputes, les engueulades, les violences verbales qu'on a pu vivre quand on était petit, et le conflit. Le conflit, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose qui déséquilibre l'autre, c'est-à-dire... Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais ça n'a rien à voir avec ce que Isabelle a dû connaître quand elle était petite. Donc effectivement, si elle a connu ça, il y avait de grandes chances qu'elle se dise « je préfère comprendre, interpréter que d'aller au front et de bousculer cet homme-là qui n'est pas très sympathique ».
Oui.
C'est-à-dire que, vous voyez Isabelle, c'est-à-dire que à cause de vos parents, vous n'avez pas compris la différence entre le conflit et le règlement de compte, la violence, la haine, les ressentiments et tout ce qu'on se jette à travers la figure pour tuer l'autre en quelque sorte, hein, au sens.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et du coup, on reproduit des situations et des schémas identiques jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait.
Ouais, absolument. Absolument. Ouais. Le conflit, c'est oser poser ses limites, oser dire non, oser poser ses limites, oser affronter l'autre, mais dans l'amour et le respect de la relation.
Voilà, ouais, c'est la belle définition de ce que j'appelle l'autorité en éducation, mais c'est aussi avoir autorité dans son couple, c'est-à-dire oui, je respecte l'autre, mais j'existe. Mais c'est conflictuel quand on accepte ça.
Merci en tout cas Isabelle, votre témoignage est fort encore une fois, parce qu'il va parler à plein de gens, hein, et merci de vous être confié à nous, merci beaucoup. Allez, une petite pause Didier Pleu, et puis il va être temps déjà de conclure avec vous bien sûr sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio Rodez
104.4
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner accoudée au motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse. Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Qui danse,
quelle que soit la tendance. Pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et si vous avez apprécié les conseils de Didier Pleu, n'hésitez pas à le lire. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, aussi bien sur l'éducation pour les enfants que sur l'autorité en règle générale. Mais le dernier, ça s'appelle « L'autorité éducative, une urgence ». C'est aux éditions Odile Jacob. On va conclure avec vous, Sylvie. Merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Didier, bonjour Brigitte.
Bonjour.
Alors, vous êtes issu d'une grande famille, hein, vous étiez 7 enfants, c'est ça ?
Mm-hmm, c'est ça.
Et vous avez du mal aussi dans votre couple à poser vos limites, à trouver votre place ?
C'est ça. À imposer de manière... imposer mon individualité de manière... je ne suis pas douée, en tout cas, pour le faire. Alors, soit je vais le faire d'une manière assez brutale, soit je vais carrément m'extraire du jeu et lui laisser la place. Bon, pourtant, il me la laisse volontiers, mais je ne sais pas, je la perds un peu, mon individualité, quand je suis en couple. Alors, bon, mon conjoint, il est souvent en déplacement, donc je me débrouille. Hein, quand je suis toute seule, ça va, je fais des choses que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que quand il est là, j'ai un peu de mal à prendre ma place, quitte à lui reprocher après, par la suite. Alors, c'est ça qui est un petit peu désagréable pour lui, parce qu'il ne comprend pas bien, quoi.
C'est un peu injuste. Mais il me semble que c'est un peu comme avec Isabelle tout à l'heure, non, Didier Pleu, c'est que Sylvie a peur du conflit.
Alors,
oui, et Sylvie, sans doute, a du mal à s'affirmer, c'est-à-dire quand elle dit qu'elle passe de passivité, elle va encaisser, elle va quitter les lieux, je ne sais pas quoi, ou elle va agresser, ce qui ne va rien changer, c'est qu'elle a des difficultés de s'affirmer. Mais s'affirmer, c'est forcément gêner l'autre, c'est forcément être conflictuel, et c'est forcément accepter que ben, l'autre ne va pas forcément approuver ce qu'on est en train de dire. Et c'est ça qui est difficile dans l'affirmation de soi. Et sinon, ben, on garde tout, passivité ou alors grosse colère, et ça va être la dispute outrancière.
C'est ça, c'est-à-dire que j'attends chez moi que la tension monte vraiment pour pouvoir le dire.
Voilà.
Et forcément, ça sort... avec beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité. Donc, ça me discrédite complètement auprès de mon conjoint, parce qu'il dit, bah, de toute façon, tu le dis sous l'effet de la colère, donc ça n'a pas beaucoup d'importance.
Voilà.
Il me dit à chaque fois, si tu me le disais d'une manière beaucoup plus posée, j'entendrais, mais là, il ne comprend pas. Donc, il se dit à chaque fois, mais non, puisque tu m'as souvent dit oui, et là, je ne comprends pas ton non par la colère. C'est parce que tu es en colère. Donc, alors après, moi, j'ai pas tant peur de ça, du conflit, c'est surtout lui, en fait, parce que lui, il faudrait lui dire les choses calmement.
Attendez, oui, mais attendez, c'est normal. Si chaque fois que c'est pas,
oui,
chaque fois qu'il y a conflit, c'est le volcan, c'est le volcan avec
oui,
la lave qui le recouvre. Je peux comprendre qu'il en ait peur. Vous voyez, mais est-ce que vous avez repéré quelles seraient plus précisément les choses qui vous font monter comme ça en pression?
Un sentiment de mise à l'écart ou de pas être respecté, voilà.
Quand vous avez le sentiment qu'il fait pas assez attention à vous.
Vis-à-vis de quelqu'un d'autre, parce que quand on est tous les deux, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre en jeu, il va pas faire forcément attention à moi.
Vous voyez ça, ça, enfin, il me semble que ça fait écho à votre famille nombreuse. Vous étiez 7, certainement que vous étiez aussi souvent pas assez remarqué, assez
entendu, oui, sans doute.
Voyez, peut-être, alors c'est une hypothèse, hein, mais peut-être que c'est ça.
Oh oui, non, mais ça c'est clair.
Alors si c'est ça, c'est pour ça que ça monte, et que vous n'arrivez pas à le réaliser à temps. Parce qu'en fait, c'est pas vous, c'est la part de petite fille mature qui grandit, et puis qui à un moment donné explose.
C'est insupportable quand on n'écoute pas. Hein. Ça, c'est des schémas qu'on a pu connaître quand on est petite fille, etc., dans une grande famille. C'est insupportable quand on me coupe la parole. C'est insupportable quand on ne me respecte pas. Et tout ça se transforme effectivement en projection plus tard sur son conjoint en disant « Mais il est insupportable quand on est avec des amis, il ne me cause pas, il ne m'écoute pas, il ne me donne jamais la parole. » Donc, mais savoir ça... C'est super intéressant, mais il faudra quand même s'affirmer, c'est-à-dire, bon, puisque je sais d'où ça vient, mes colères, etc., il va falloir quand même que j'apprenne à exprimer ça sans piquer des colères et des tsunamis, quoi. Et ça, il y a des très bonnes techniques dites d'affirmation de soi qui aident à comment je peux exprimer avec un langage affirmé, mais pas un langage agressif, ce que je ressens. C'est des choses qui s'apprennent.
Peut-être que Sylvie, vous avez l'air quand même d'avoir une communication possible avec lui, quand vous n'êtes pas dans cette montée en puissance de votre colère.
Oui.
Alors, moi, ce que je vous propose déjà comme un petit truc tout bête, mais parlez-lui et dites-lui, écoute, quand je sens comme ça que ça monte, et convenez d'un mot ou d'une attitude ou d'un geste que vous pourriez lui envoyer. Est-ce que ce serait possible?
Je l'ai fait, ça. Mais il dit qu'il n'a pas le temps, c'est-à-dire que je suis
Faites-le plus tôt, c'est que vous le faites quand vous êtes... J'allais faire la comparaison avec l'éjaculation précoce. Vous le faites quand vous êtes trop excité, donc c'est déjà trop tard. Il faut le faire quand vous sentez que l'excitation monte.
Oui, sans doute que c'est trop tard. Parce que même lui, il me dit, mais je ne peux même plus, parce que tellement que
je n'écoute plus. Oui, et puis là, c'est fini.
C'est
fini, c'est la petite fille colérique. Non, alors, ce que je vous propose, faites-le avant même de sentir la moindre colère. Faites-le à froid, de temps en temps, quand vous êtes en compagnie.
Un petit peu agacé.
Oui, ou même pas agacé. Quand vous êtes avec lui, avec du monde, puisque j'ai bien compris que c'est comme ça que ça se passait, eh bien, faites ce geste ou dites ce mot. Et vous allez voir que donc là, il va pouvoir l'entendre, puisque vous serez tout à fait calme. Et il va s'occuper de vous, il va s'intéresser à vous. Et ça va vous prouver que cet homme, c'est pas comme vos parents, il est capable de prendre soin de vous, de vous écouter, de vous voir.
C'est un très bon conseil, Brigitte. Si effectivement Sylvie peut se dire un mot comme Cosette au début d'un repas avec des amis, son mari comprendra tout de suite que oh là 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 là, faut que je fasse attention parce qu'elle va encore me jouer le côté de la victime. Et ça peut arranger beaucoup de choses et permettre la communication ensuite sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait mal.
Ouais, sauf que lui, quand même, je sais que...
Non, mais là, vous voyez, Sylvie, je vous coupe. Vous voyez, vous êtes déjà en train de l'accuser. De toute façon, ma blessure, elle est telle qu'il ne pourra pas la guérir. Voilà. Alors, si vous partez comme ça, on n'y arrivera pas. Vous voyez comment c'est terrible, comment on les aime bien, nos blessures. Hein, vous voyez? Alors maintenant, je vous écoute. Allez-y, dites-moi. Allez-y.
Que sans doute que j'attends un peu trop, effectivement, qu'il vienne soigner cette blessure. Je suis consciente que je suis bien la seule à pouvoir prendre soin d'elle et que, voilà, mais c'est plus fort que moi.
Sylvie, vous avez raison, mais pour que l'autre puisse soigner notre blessure, il faut quand même oser lui demander de l'aide.
Et pas se dire, il devrait comprendre que je suis fragile et il devrait m'aider. Non, ce serait bien, mais il y a de grandes chances qu'il soit pas votre thérapeute. Donc, il va falloir malheureusement prendre sur soi, lui parler, communiquer, dire son senti.
Et je peux vous assurer, Sylvie, et je le dis à vous, mais je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si on ose demander de l'aide à notre partenaire qui nous aime, Je vous assure que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que d'abord, il va nous aider. Et c'est ensuite extraordinaire parce qu'on gagne en confiance en soi et en estime de soi. On passe de l'échelle de 1 à 10. Et ça, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même qui n'a pas de prix. Je crois que ce serait pas mal de terminer là-dessus, Didier Pleunet.
Ah oui,
est-ce que vous en pensez?
Je trouve ça bien. Non, mais c'est une très belle conclusion. En tout cas, on a vu que ce soit dans le couple ou en parentalité, les deux mots, c'est amour et frustration. Toujours.
Donc, méditez là-dessus, Sylvie, vous y penserez, hein ?
Ok, pas de souci, merci beaucoup pour votre conseil.
Je vous en prie. Et je vous conseille même de réécouter peut-être en podcast. Mm-hmm. Parce qu'au fond, c'est toujours ça. On reste accroché, hein, à nos blessures, à nos comportements. C'est pas simple de changer finalement, hein.
Non, c'est pas simple, mais je répète, on peut très bien conscientiser ces choses-là quand on dit qu'est-ce qui me tue chez l'autre et qu'est-ce que je me raconte dans ma tête pour pouvoir justement penser d'une façon plus mature et ne pas rester dans le ressenti. Mais c'est pas simple parce que ça veut dire, et vous arrêtez pas de le dire, Brigitte, attention, c'est à vous d'abord de faire ce travail sur soi de remise en cause et d'être consciente de tous nos petits travers. Et ça, la plupart du temps, nous, on aimerait bien que ce soit l'autre qui change, point.
Eh oui. Merci beaucoup, en tout cas, Didier Pleu. Merci beaucoup.
C'est moi. L'autorité
éducative, une urgence, est parue aux éditions Odile Jacob. Il est temps que je m'arrête. Je laisse la place à Alexandre Delovan. Et puis demain, on se retrouve avec Philippe Brenneau. C'est vrai que notre société devient peut-être un peu puritaine, un peu sexophobe. Pourquoi ? On va en parler avec Philippe Brenneau demain.
Sud Radio Monaco.
97.9.
Sud Radio.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas.
Sud Radio.
Sud.
Radio. Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille. Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit alors jubile. Ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. Des deux. Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi je t'attendrai toute la nuit. T'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils. Baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille.